Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina sur Canal B, il est midi 15 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade farce.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société sur Canal B. Nous sommes mercredi 24 juin 2026 ou jeudi 25 juin si vous nous écoutez en rediffusion. Et si c'est le cas, eh bien bonne matinée à vous. Il fait toujours chaud, non ? J'espère que vous survivez. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu allégée pour éviter la surchauffe, justement. C'est pour ça que je suis solo au micro, mais pas solo en plateau, puisque Léa réalise l'émission. Salut Léa !
Salut !
L'interview du jour sera consacrée à un domaine qui n'est pas pour rien dans la chaleur de ces jours-ci. Il y a quelques jours, Alex a reçu dans nos studios Elsa Denichou et Elisa Fromont. Elisa Fromont est chercheuse en intelligence artificielle et Elsa Denichou est ingénieure et médiatrice culturelle. Toutes deux ont participé à la création de l'exposition « Qu'est-ce qu'il y a ?» que vous pouvez actuellement voir au musée des transmissions à Cesson-Sévigné. Avec cette exposition, elle cherche à démystifier l'intelligence artificielle, à montrer que l'IA n'est pas née il y a 2 ans avec ChatGPT et aussi à ne pas laisser croire aux citoyens que l'IA est la solution à tout. Je vous propose d'écouter cette interview, vous verrez, c'est assez intéressant d'entendre leurs points de vue respectifs de chercheuses et de médiatrices culturelles. Et puis aujourd'hui, on va laisser la part belle à quelques belles respirations musicales avec 2 nouveautés. La première nous met un pied en Algérie et nous laisse l'autre en France. Bonne écoute.
We'll be right back.
À l'instant, vous écoutiez Stiff, un titre du nouvel album d'Acide Arabe qui s'appelle Résonance. Un album qui résonne un peu moins, enfin que je trouve un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Mais sur ce titre, vous avez eu la chance d'entendre Hossine Staifi, un chanteur algérien et apparemment un chanteur culte de Chaabi, si j'en crois mes recherches matinales. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société sur Canal B. Tout de suite, pour l'interview du jour, je vous propose d'écouter la chercheuse et la médiatrice culturelle à l'origine d'une exposition sur l'intelligence artificielle, actuellement visible à Cesson-Sévigné, le tout au micro d'Alexane de la rédaction de Canal B.
Depuis le 20 mai 2026, au musée des transmissions, l'exposition « Qu'est-ce qu'il y a ?» a ouvert ses portes. Il s'agit d'une exposition d'un an jusqu'au 27 mai 2027 qui a pour but de démystifier l'intelligence artificielle en discutant de ses enjeux éthiques et sociaux. Je suis aujourd'hui en compagnie de Elisa Fromont et Elsa Denichoux qui ont participé à la création de Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
L'IA prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, amenant de plus en plus de questions. Et l'imagination collective autour de l'IA s'enflamme et s'éloigne souvent de la réalité. Donc Elisa, vous êtes professeure en informatique à l'université de Rennes. Et vous, Elsa, vous êtes ingénieure d'études et médiatrice scientifique. Et vous avez collaboré avec plusieurs personnes, dont l'université de Rennes, pour cette exposition. Ça a été un travail fou. Qu'est-ce qui vous a fait sentir qu'il y avait un besoin, justement, de faire une exposition dans ce domaine ?
Moi, je suis chercheuse en intelligence artificielle et régulièrement, je donne des conférences grand public et aussi aux scolaires, au lycée et puis en collège, Elsa aussi d'ailleurs. Et on se rend compte que c'est souvent les mêmes questions qui remontent. Il y a des peurs qui ne sont pas toujours bien fondées. Il y a aussi des espérances qui nous semblent importantes. Et voilà, on pensait que c'était important d'essayer de remettre les choses à plat et puis d'expliquer les choses calmement, techniquement.
Et donc ces explications, c'est parce qu'il y a une grande idée reçue par le public sur l'IA. Comment est-ce que vous définirez un petit peu l'idée du public sur l'intelligence artificielle aujourd'hui ?
La plupart des gens qu'on rencontre, surtout les plus jeunes, pensent que l'IA, c'est magique, que ça peut faire plein de choses et que ça sort du chapeau comme ça, déjà super intelligent, alors que en fait, il y a toute une phase en amont où on cherche à développer des systèmes d'IA performants. Et tout ça, en fait, c'est les humains qui produisent ces modèles d'IA et qui dit intervention humaine, dit possible biais, c'est-à-dire possible résultat pas forcément objectif. En fait, le grand public a tendance à penser que puisque l'IA est intégrée dans des machines, que les machines ne peuvent pas avoir d'idées reçues, des choses comme ça. Et du coup, ça, notre travail avec Elisa, c'est de faire part de cette facette-là au public. Et c'est ce qu'aborde l'exposition.
Donc l'idée la plus importante, le plus urgent en fait à expliquer dans cette exposition, c'était justement que l'IA n'est pas magique, qu'il y a vraiment un travail derrière, que ça, justement comme vous l'avez dit, sort pas du chapeau. Est-ce qu'il y a une partie de cette exposition justement qui va surprendre les visiteurs, où vraiment ils vont se dire « Tiens, j'aurais pas du tout imaginé ça ».
Alors on manque un petit peu de recul parce que l'expo a ouvert il y a 15 jours. On pense que donner un peu le contexte historique de la création de l'IA, c'est important. Et ça, le public ne se rend pas du tout compte. Donc le mot intelligence artificielle, ça date de 1956, donc ça fait 70 ans. Les gens pensent qu'on parle d'IA depuis 2022, avènement de ChatGPT. Et voilà, donc déjà ce contexte historique replacé, on montre un chatbot des années 60 qui s'appelle Elisa d'ailleurs, et qui est un psychothérapeute rogérien qui est nul, qui raconte n'importe quoi, mais qui est un chatbot et qui est vraiment l'ancêtre de ChatGPT et qui est fait complètement différemment. C'est pas du tout appris de la même manière que ChatGPT, mais c'est intéressant de voir que ce côté chatbot et tout ça, ça date pas d'hier, qu'il y a des gens qui travaillent dessus, que là où on en est actuellement, ça vient de travaux de recherche qui se sont développés ces 70 dernières années et que ça aide à démystifier le côté magique dont parlait Elsa tout de suite.
J'allais rebondir aussi, ce qui surprend pas mal, c'est que le grand public a tendance à penser que l'IA, c'est vraiment juste un petit champ de l'IA, l'IA générative. En fait, dans le langage populaire, il y a une déformation qui est faite. Les gens, quand ils utilisent « Ah oui, l'IA m'a fait ci, l'IA m'a fait ça », en fait, ils parlent d'une petite partie, un sous-domaine de l'IA qu'on appelle l'IA générative. Et l'exposition aborde, en fait, c'est beaucoup plus varié. On s'aperçoit que l'IA, ce n'est pas juste l'IA générative. Autant au début de l'IA qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a plein de recherches différentes qui sont faites dans des domaines de l'IA divers et variés. Et du coup, ça aussi, ça peut surprendre en fait que l'IA, c'est pas juste ChatGPT, c'est pas juste Gemini, et qu'il y a plein de champs de recherche qui sont abordés en IA, en intelligence artificielle.
Donc c'est un sujet qui est quand même très dense, qui remonte sur plusieurs années. Comment est-ce que vous faites pour le rendre compréhensible, sachant que c'est un sujet qui est très technique dans votre exposition ?
Alors, il a fallu faire des choix. On ne peut pas tout aborder, ça c'est clair et net. Et le choix qu'on a fait, c'est d'aborder l'IA au prisme des applications qui en sont faites. Donc l'IA pour générer, l'IA pour percevoir, l'IA pour jouer. Et du coup, au sein même de ces pôles, des choix sont faits. On aborde les grandes généralités, le côté scientifique en fait. Et en fait, après, j'ai fait le choix de choisir un détail en particulier pour le pôle IA pour prédire. Donc, on explique l'apprentissage des modèles d'IA qui font des prédictions. Et ensuite, en guise d'exemple, j'ai fait le choix de parler des systèmes de recommandation qui parlent au grand public, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour que ce soit clair dans la tête autant des ados que des plus anciens qui sont aussi sur Facebook, des choses comme ça. Là aussi, on retrouve des systèmes de recommandation.
En tant que chercheuse en IA, ça me demande de lâcher prise totalement pour que ça devienne vulgarisé, parce que en fait pour moi il y a trop peu d'informations, il faudrait être plus spécifique, il faudrait être plus technique, c'est pas tout à fait exact, donc enfin ça c'est des problèmes de vulgarisation scientifique qu'on connaît bien.
Et donc justement on parle des différentes manières d'aborder l'IA, donc vous abordez de manière scientifique, mais on se rend aussi compte que l'IA ça manque beaucoup de diversité, notamment ça se ressent dans les projets, dans les biais et dans les usages de l'IA. Comment est-ce qu'on explique ça?
Déjà on donne des chiffres. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les panneaux. Il y a des rapports, notamment un rapport de l'UNESCO de 2019 qui indique que 85% des applications d'IA sont faites par des hommes. Et donc de là, en fait, découlent des biais. Parce que qui dit très peu de diversité dans les personnes qui conçoivent les IA, il y a des biais qui en découlent, des biais sexistes là en l'occurrence, mais il y a aussi tout un lot d'autres biais, les biais racistes, etc., etc. En fait,
ouais, en fait, l'idée c'est de montrer en fait techniquement comment ces modèles sont appris, parce que une des techniques d'intelligence artificielle les plus utilisées et qui a la part belle dans l'exposition, c'est l'apprentissage automatique, un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, on leur montre comment c'est appris, on montre qu'il y a un besoin d'apprendre à partir de données, et que ces données-là, en fait, il y a plein de manières de les biaiser d'une certaine manière pour pouvoir avoir des résultats derrière de prédiction. La machine, c'est une machine, elle fait ce pour quoi elle a été programmée. Et si les données sont mauvaises, si par exemple on n'a que des images de cancer qui viennent de corps masculins, ben ce sera peut-être plus difficile de trouver ces cancers sur des corps féminins. Ces données, elles sont, par exemple, il y a une application qui est utilisée aux États-Unis qui s'appelle Compass, qui sert à essayer de donner un score de récidive potentielle à des gens qui viennent d'être arrêtés. Et en fait, Compass est appris pour donner ce score à partir de données des crimes qui ont déjà été commis ou des gens qui ont déjà été arrêtés, et de est-ce qu'ils ont récidivé ou pas, donc est-ce qu'il faut les mettre en liberté sur parole ou pas. Et en fait, il se trouve que dans les gens arrêtés, il y a beaucoup plus d'Afro-Américains, il y a beaucoup plus de gens qui viennent de villes pauvres ou de quartiers pauvres dans certaines villes. Et en fait, ça c'est les données sur lesquelles ont été entraînés le modèle. Et donc vous imaginez bien que en fait le modèle il reste un peu dans son sillon, il va continuer à prédire forcément ce qu'il connaît, et donc potentiellement donner beaucoup plus de probabilités de récidive a priori à des gens comme ça. Et ça c'est vrai par exemple pour traiter des CV dans des entreprises automatiquement.
Et donc justement, il y a de plus en plus de biais, mais également de plus en plus d'informations qui sont données à l'IA. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, certains domaines soient entièrement gérés par IA, notamment les modèles dont vous venez de parler? Est-ce qu'on peut imaginer que ces domaines seront gérés intégralement par intelligence artificielle?
On peut tout imaginer. Personnellement, j'espère pas. Mais en fait, ça va tellement vite. Les entreprises mettent tellement d'argent aussi pour arriver à ces fins-là. Donc après, ça va être des choix sociétaux à faire. Quelle place on laisse à l'IA dans nos sociétés humaines? En fait, on n'en sait rien.
En fait, il y a des enjeux qui nous échappent un petit peu actuellement, c'est-à-dire que l'IA, c'est un outil technique qui est contrôlé par des humains, qui est complètement contrôlé par des humains. Mais il se trouve que le monde va plutôt mal dans plein de domaines et que les humains font des choix, on va dire, éthiques, sociétaux, discutables. Et forcément, comme l'IA permet de... En fait, l'IA permet de passer à l'échelle, on dit, de décupler ce qu'on pouvait faire avant. Parce qu'on va traiter plus de données, on va aller plus vite. Un peu comme, si vous voulez, il y a eu la révolution numérique, tout le monde s'est mis à faire des choses en numérique. C'est aller plus vite. Et certaines personnes ont perdu leur travail parce que, en fait, on a déporté, on a donné à la machine du travail, par exemple, qui était fait avant par des petites mains. Et en fait, cette révolution-là, elle continue. C'est du même type, si vous voulez. Et comme c'est puissant, c'est un outil puissant. Et en fait, si on veut mal l'utiliser, on peut mal l'utiliser de toutes les manières possibles. Mais donc, savoir si des pans entiers de la société vont être faits par l'IA, ça dépend de la volonté humaine, en fait, qui est derrière. C'est ce que voulait dire Elsa, je pense. Mais en aucun cas, je pense qu'il faut blâmer l'IA, en fait. Il faut blâmer, je sais pas, nos politiques, les gens qui décident que ça, c'est souhaitable pour la société.
Après cette première partie d'interview, je vous propose de faire une courte pause musicale, la deuxième dans 3 en 1. Celle-ci va nous emmener un peu au Brésil, mais en nous laissant un ancrage en France.
Vem até de manhã. mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança.
C'était Flavia Coelho, évidemment, vous l'aviez reconnu avec à l'instrumental l'entourloupe, un son tout nouveau qui mélange plutôt bien des rythmiques différentes, vous l'aurez entendu. Allez, avant de repartir en plateau, on s'offre un petit clin d'œil radiophonique sur le sujet du jour.
ChatGPT, je suis en panne là. Ah merde, plus de batterie.
25% des salariés français, tous secteurs confondus, utilisent ChatGPT tous les jours pour leur travail.
Si cette technologie accomplit des prouesses, elle renferme une part d'ombre.
On pense rarement au climat parce que la matérialité du numérique, on l'oublie. Il y a toujours cet imaginaire du nuage, etc.
Ça paraît très abstrait.
Ce complexe, de la taille d'une quinzaine de terrains de foot, est un centre de données, un data center.
Dans ces immenses bâtiments, des serveurs ultra puissants qui, pour fonctionner 24 heures sur 24, doivent être alimentés en électricité, refroidis en permanence avec des tonnes d'eau.
Douche froide,
prendre une glace.
J'utilise une serviette mouillée.
C'est bien, mais pas assez.
Pour apprendre, l'intelligence artificielle doit lire, analyser une quantité phénoménale de données. Et sa vitesse d'apprentissage est très lente.
Ces derniers temps, j'ai vraiment ressenti le besoin de ralentir et de renouer avec mon escargot.
J'ai ma petite théorie sur la canicule. C'est juste une épreuve préparatoire pour la température qu'on aura en enfer, parce qu'on va tous y aller, force de maltraiter la planète. Allez, bonne journée.
C'était un clin d'œil sonore signé Léa de la rédaction. Vous pouvez en comprendre ce que vous souhaitez, parce que oui, ce que vous avez compris, c'est qu'on repart en plateau avec Elsa Denichoux et Elisa Fromont. L'une est chercheuse en intelligence artificielle, l'autre est ingénieure et médiatrice culturelle, et toutes deux ont participé à la création de l'exposition « Qu'est-ce qu'il y a ?», actuellement ouverte au public.
Vous parlez d'un contrôle humain entier sur l'IA, mais une peur qui est assez répandue parmi le grand public, c'est que l'IA commence à s'améliorer elle-même, commence à se gérer elle-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que ça peut arriver, ou est-ce que ça va rester uniquement dans le domaine de la science-fiction ?
La raison pour laquelle l'IA arrive à se gérer elle-même, c'est parce que derrière, il y a des humains qui lui demandent de se gérer elle-même. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont ce qu'on a appelé modèle tout à l'heure avec Elsa sont gérés, c'est qu'on va leur donner un certain nombre de données et ils ont une tâche à faire. Cette tâche, elle peut être plus ou moins bien spécifiée. Moins bien elle est spécifiée, plus on va avoir des résultats qui peuvent être un peu surprenants. Mais globalement, en fait, ça reste une demande humaine et une tâche faite par une machine. Il n'y a pas, encore une fois, il faut sortir de ce côté magique. Oui, on peut tout à fait demander actuellement avec tout ce qui est agent dans l'IA, c'est-à-dire finalement donner des accès autres que juste le chatbot à la machine et pouvoir éventuellement, je sais pas, accéder à votre agenda, à votre navigateur web, même à votre compte en banque ou n'importe quoi. On peut donner ces accès-là, mais au début, ce qui se passe, c'est qu'il faut un accord humain pour le faire. On peut le faire techniquement.
Et donc, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a quand même une grande incertitude sur l'avenir de l'IA. On ne sait pas exactement comment est-ce que ça va se développer. Si jamais vous pouviez faire une prédiction aujourd'hui sur l'IA en 2035, si vous deviez refaire votre exposition en 2035, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur l'avenir de l'IA ? Qu'est-ce qui serait différent ?
En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que y a deux mondes parallèles dans le domaine de l'IA et deux mondes qui développent des choses de manière presque parallèle. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs en IA, qui existe donc depuis 70 ans au moins, parce qu'avant c'était des mathématiciens, mais ils faisaient des choses un peu similaires, qui cherchent à développer des choses qui sont utiles pour la société, ou en tout cas qu'ils imaginent être utiles pour la société, traiter des images médicales pour essayer d'aider à détecter des cancers, essayer de sauver des cultures, essayer de comprendre le changement climatique, enfin des choses qui nous semblent vertueuses. Et puis, à côté de ça, il y a les entreprises, et en fait depuis l'avènement des GAFAM presque, on a un peu perdu pied, parce que ces entreprises-là, au lieu d'avoir un temps d'incubation dans le milieu académique qui nous permettait de pouvoir un petit peu voir quel pouvait être l'effet des choses, c'est pris par ces entreprises qui ont des moyens financiers qui sont colossaux, c'est bien plus que les moyens financiers des États eux-mêmes. Et en fait, ben c'est eux qui mènent la danse, qui décident. En fait, ils ont même leurs propres chercheurs et ils décident où ils vont, ce qu'ils vont vouloir faire. Et leur agenda, comme on dit en anglais, est complètement dicté par le profit, qu'est-ce qu'il va rapporter, et pas du tout dicté par qu'est-ce qui est bien pour la société. Donc, en fait... Non, je pense qu'on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui se passera en 2035. Je pense que si on faisait une exposition en 2035, elle sera probablement nécessaire et il faudra essayer de encore chercher à démystifier des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus la recherche en IA qui décide où ça va. C'est un peu triste, mais c'est un fait. C'est ces grandes entreprises, alors GAFAM, ça c'est américain, mais il y a la même chose en Chine, qui ont pris le lead et qui ont décidé, ok, bah c'est vers là qu'on va. Et là...
Une question que beaucoup de gens se posent, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent au jour d'aujourd'hui à surveiller sur l'IA, à surveiller dans les années à venir? Donc dans notre façon d'appréhender l'IA, qu'est-ce qui est le plus urgent?
Bah, à l'heure actuelle, c'est l'impact environnemental de l'IA. Ça, à mon avis, c'est la première des urgences. Avant de mettre, comme Elisa vient de le dire, tout le monde à la pointe de l'IA. Mercredi, pour la petite histoire, mercredi, j'étais à un colloque sur l'IA. La réflexion qu'on a eue, c'est que en fait, plutôt que mettre des gens comme des maraîchers et des maraîchères à la pointe de l'IA, en fait, faudrait plutôt résoudre les questions climatiques. Ça, ce serait à mon avis la première des choses à aborder. Et aujourd'hui, on voit qu'on construit de plus en plus de data centers, etc., qu'il y a même des recherches qui sont faites pour, pourquoi pas, mettre des data centers sous la mer. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, quand on voit qu'il y a des récentes études qui ont montré qu'aux alentours, enfin, en périphérie des data centers, on est à plus 9 degrés, en fait, on peut vraiment se poser la question de où on va comme ça, en plus d'aller puiser de l'eau, etc., où là, il y a une accentuation de la désertification alentour. Donc en fait, pour moi, c'est ça l'urgence à se poser. C'est au niveau de notre société, est-ce que, pour l'exemple de l'eau, on préfère garder de l'eau pour que des personnes puissent avoir accès à l'eau parce qu'en fait, on en a besoin pour vivre, ou est-ce qu'on préfère puiser l'eau pour refroidir des data centers? Voilà, pour moi, c'est l'urgence primordiale.
Sur donc le site de l'exposition, on peut voir qu'il s'agit d'un projet soutenu et financé par le ministère des Armées. Quel rapport exactement avec le ministère des Armées? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'exposition IA?
Alors, l'exposition temporaire prend place dans un des musées du ministère de l'Armée, du ministère des Armées, pardon. L'école qui dépend du ministère des Armées a donné un budget pour la scénographie de l'exposition. Mais la grande majorité de ce projet-là a été financée alors par l'État aussi, mais par le projet, enfin à travers le projet TIAR, qui veut dire toute l'intelligence artificielle à Rennes. Donc le rapport, c'est que ça prend place dans le musée des transmissions qui est ressortissant du ministère des Armées, que au sein de notre exposition temporaire, il y a un pôle qui aborde la question de l'IA en conflit armé et comment aujourd'hui aussi les armées cherchent à développer des modèles d'IA pour faire la guerre, pour se défendre. Donc c'est ce lien-là en fait qui est fait, mais c'est pas le ministère des Armées qui finance ce projet-là.
En fait, je pense qu'il faut quand même qu'on dise une petite chose, c'est que on travaille en collaboration aussi avec le ministère des Armées, pas parce qu'on leur vend nos technologies ou pas parce qu'ils vont tout dévoyer, mais c'est parce qu'on pense que eux aussi, ils ont besoin d'être formés, en fait. Ils ont besoin d'être formés à la question, ils ont besoin de comprendre ce que nous, on pense être des enjeux importants, et aussi parce que quoi qu'on fasse, on va développer des technologies qui peuvent leur être utiles, et on aimerait autant que qu'on comprenne comment c'est dévoyé, si c'est le cas. Voilà, il y avait vraiment deux choix. À l'université, on aurait pu tourner le dos à l'armée en disant oh là là, l'armée c'est le mal, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais on pense que c'est pas une bonne stratégie.
Merci beaucoup pour les précisions. C'est déjà la fin de cette interview. Merci Elisa Fromont et Elsa Denichoux pour vos réponses concernant ce sujet de l'intelligence artificielle et de ses différents usages.
Merci à vous.
Merci.
Et merci à toi Alexane pour cet entretien. Vous l'avez entendu, c'est un sujet complexe et à la croisée de pas mal de questions sociétales. Si ça vous intéresse, vous pourrez visiter cette exposition à Cesson-Sévigné jusqu'au 27 mai 2027. Vous avez largement le temps. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Entre petites escapades musicales et incursions dans le monde de la recherche en intelligence artificielle, j'espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez la réécouter, tous nos podcasts, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur le site de Canal B, canalb.fr, et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Merci beaucoup à Elsa Denichou et Elisa Fromont d'avoir été nos invités. Elles étaient interviewées par Alexane. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Léa et moi-même, Nina, à l'animation. Ce qui vous attend pour la suite de la journée sur Canal B à 13h, c'est Novorama, l'émission qui vous emmène à la découverte de pas mal de nouveautés musicales, indie, pop rock ou électro en tout genre. À 16h, place à l'imaginaire avec les histoires de Doé, avant de retrouver Le Grand Tout, comme tous les jours de la semaine, à 17h. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain à 12h15 pour l'avant-dernière émission de 3 en 1 de cette année. Bonne journée à vous sur le 94 MHz.